sur la 53e rue, au cœur de Broadway. Le cinéma créé par Eugène De Rosa s'apprête à fêter sa 4e année d'existence. Sa réputation, déjà, n'est plus à faire. La splendide salle aux allures baroques peut accueillir 1761 personnes qui, ce soir, s'y entassent, à guichet fermé. Le jeune homme de 27 ans qui s'avance, sa femme à son bras, a des étoiles dans les yeux. Il est aux anges. Et son Panama en main, il fait de petits signes de salutation à droite, à gauche. Ce soir, il est la star. Sa moustache frétille, parfaitement taillée, fine, conforme à la mode à l'aube des années 30. Elle fait tout son charme. Son épouse, totalement effarée par le monde présent, ne pourrait pas dire le contraire. Elle se laisse guider, prend place au premier rang et lui demande « Tu te sens prêt ?» Sa voix est ténue, presque imperceptible. D'un regard sur le côté, son mari acquiesce nerveusement. Oh, il s'appelle Walt Disney. Et ce soir, il le sait. Il joue son avenir. Les lumières se tamisent. Les haut-parleurs grésillent et crachent les premiers sons du film en projection. Disney souffle. Les dés en sont jetés. C'est maintenant que pour lui, tout se joue. Les applaudissements mesurés derrière le jeune homme l'appellent à la prudence. Nous sommes le 18 novembre 1928. Il est 20h30. Et c'est l'heure H de mon histoire. Timbo Twilly. Les deux mots s'affichent sur l'écran sur un fond musical. Walt Disney, les mains cramponnées à son siège comme s'il devait affronter un terrible vertige, tend l'oreille plus qu'il ne regarde. Il observe les gestes et réactions de l'assistance plus qu'il ne contemple son œuvre. Grand stressé, perfectionniste, bourreau de travail, il peut se montrer impitoyable avec ses équipes tant qu'il n'a pas obtenu le résultat souhaité. Voilà qui il est vraiment, cet homme qui produit un cinéma d'un genre nouveau. Dans son costume impeccablement cintré, il suffoque. Les 7 minutes qui s'écoulent sont les plus longues de toute sa vie. Pourtant, selon lui, ce court-métrage est une franche réussite. Le présenter au public ce soir pourrait presque passer pour une formalité. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Disney n'est pas encore célèbre. Il n'est encore que celui dont le nom se murmure dans certains cercles. Il n'est certainement pas une star et malheureusement, les échecs commencent à effacer les quelques succès qu'il a pu obtenir. Juste à côté de lui, sa femme, Liliane, fixe l'écran du regard. Oh, bien sûr, cette histoire, elle la connaît. Elle sait qu'avec ce film, Walt a imaginé parodier une œuvre muette à succès. L'œuvre originale met en scène Buster Keaton, le grand rival d'un certain Chaplin. Disney, la goutte de sueur qui pointe au coin des tempes, a même entendu dire que le célèbre acteur pourrait être présent ce soir. Le jeune homme a les mains moites. L'anxiété vient serrer sa poitrine. Pour lui, les secondes paraissent des heures, ce qui ne va assurément pas aller en s'arrangeant. Voilà déjà quelques secondes que les images défilent sur le grand écran, lorsque dans la salle, un grand « oh » s'élève. Disney lève les yeux, observe l'écran. Il serre le poing, regarde sa femme. Les étoiles dans ses yeux sont revenues, comme par magie. Victoire. Victoire, ça marche, ça prend. Le cinéaste se redresse sur son siège et consent enfin à se détendre. Il se laisse aller à profiter du spectacle lui aussi. D'un regard presque paternel, il contemple sa création de la dernière chance, qui se produit pour la première fois sur un écran, qui plus est, avec du son. Une petite souris se dandine ici et là, et rapidement s'impose dans l'image. Le public rit aux éclats, Certains spectateurs pointent même du doigt l'animation, comme pour la toucher. Tout semble aller pour le mieux. Ce n'est pas le premier film avec la petite souris qui répond au nom de Mickey Mouse. Pour l'anecdote, l'animal était au départ un rat, répondant au nom de Mortimer. Mais la femme de Walt trouve que cela n'est pas adapté et le rebaptise. Deux courts-métrages muets ont déjà accueilli ce nouveau personnage. Mais jamais Disney n'avait encore pu obtenir de distributeur. Enfin, jusqu'à ce soir. Pour parvenir à faire projeter les 7 minutes de ce court-métrage, le couple a dû se résoudre à un sacrifice loin d'être anodin. Vendre la voiture. La sonorisation, quant à elle, est une idée de Walt. Le premier film sonore, intitulé « Le chanteur de jazz », est sorti l'année précédente, a révolutionné le monde du cinéma. L'ambiance qui se dégage de la salle obscure donne toute confiance à Walt sur sa capacité, enfin, à rebondir. Les échecs de ces derniers mois l'ont tellement affecté qu'il en avait presque perdu l'espoir. La bascule entre l'allégresse et la morosité durant ces périodes difficiles ne tient parfois qu'à peu de choses. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, Walt dénoue son nœud de cravate. Sa toute nouvelle création, Mickey Mouse, semble plaire au plus grand nombre. Alors qu'il se tient maintenant droit dans son siège, tel un paon empli de fierté, sa femme lui tient la main. Elle aussi semble rassurée. Elle expire une grande quantité d'air, évacuant la tension trop longtemps accumulée. Ouais, je vous ai pas tout raconté. Dans ce film, Mickey ne se contente pas de danser, de bouger lorsqu'il apparaît à l'écran. Il se met aussi à parler. Et ce n'est pas anodin. Car c'est ce qui va bientôt provoquer dans le public une réaction tout à fait inattendue. Dès que la souris ouvre la bouche, la réaction des spectateurs est instantanée. Leur comportement change du tout au tout. Voilà que Mickey prononce son nom à l'écran et qu'une énorme vague de rire emplit la salle. Puis, l'hilarité s'estompe dans un souffle. Le ressac lui parvient aux oreilles. Walt Disney comprend immédiatement qu'il se passe alors quelque chose qu'il ne va pas pouvoir maîtriser. À la deuxième phrase, articulée par son personnage, les rires se font encore plus insistants. À chaque ligne supplémentaire du dialogue, s'abat un nouveau coup de poignard, plus vif que le précédent, qui touche le cinéaste, assis dans son siège cramoisi. Il se penche vers sa femme. Enfin, Liliane, écoute, tu entends, les gens se moquent. La main de son épouse s'est détachée de la sienne. Elle aussi entend ce qu'il se dit, ce qu'il se rit derrière eux. En effet, elle se rend compte que la fosse au lion s'est ouverte et que tous se rapprochent de son mari. Elle ne répond pas. Walt, déjà, sent monter en lui une colère qui se matérialise par du rouge sur ses pommettes. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il fallait pas l'appeler Mickey. Son nom, ça devait être Mortimer. Madame Disney ne répond pas. Elle encaisse, hoche la tête pour indiquer sa désapprobation, mais ne pique pas un mot. Elle a l'habitude de gérer les sautes d'humeur de son époux de cette manière, par le silence. Bien souvent, Walt revient de lui-même à la raison. Pourtant, elle ne peut pas ignorer que la salle n'est pas du tout réceptive au travail de son mari. Le problème, elle en est sûre, ne vient pas du prénom choisi pour incarner l'espiègle souris qui continue de s'agiter sur l'écran pendant ce temps. Non, le souci, c'est Walt lui-même qui l'a provoqué. C'est de lui que vient cette idée saugrenue de faire parler le personnage. Et pire, de doubler lui-même l'animal. Pour lui, le coup est donc doublement rude. Est-ce son idée qui est vilipendée? Ou est-ce son interprétation qui est moquée? Hélas pour son ego, il n'existe pas de bonne réponse à cette question. Walt Disney enrage toujours contre ce nom de Mickey que sa femme lui a suggéré. Il se voile la face, refusant d'admettre, dans un premier temps, tout du moins, que le problème vient plutôt du caractère, des mimiques qui qu'il a donné à son personnage. Ce qui est reproché à Mickey, ce n'est pas son nom. C'est son essence. Ce n'est que lorsqu'il entend les critiques, qui ne se dissimulent même pas sous un chuchotement de circonstances, qu'il comprend de lui-même l'ampleur de son erreur. Une ou deux rangées derrière lui, un homme tente une imitation de la voix de la souris, provoquant les rires autour de lui. Le spectateur, hilare, ponctue son intervention d'un lapidaire. « Non mais franchement, franchement, une souris qui parle, et avec une voix pareille, même les gosses ne pourraient pas y croire. » Le boulet de canon tiré percute le soldat Disney, et l'envoie rôtir dans les braises ardentes de la remise en question, et de l'échec encore. Il a tout entendu, évidemment. La raillerie ne s'est pas voulue discrète, ni bienveillante. Ce moment infime, à l'échelle du temps, 7 petites minutes, est pour le cinéaste un chamboulement sans précédent. Il remet tout en cause, ou presque, l'espace de cet interlude douloureux de son existence. Sa vocation, ses choix. Il repense aux épreuves qu'il a traversées et se bouscule dans son esprit ses plus vils démons, lieutenant du doute et de la perte de confiance en soi. La fin de la séance arrive, la lumière se rallume. Disney doit alors se résoudre à se mêler à l'assistance qu'il a tancée sans ménagement dans l'obscurité. Des applaudissements contenus, certainement un brin hypocrite, se font entendre. Le cinéaste sort de son siège, comme endolori d'avoir encaissé tant de coups. Les critiques ne pleuvent pourtant pas. C'est là le lot de ceux qui sont discrédités. Généralement, le cirque se passe en coulisses, en cachette. Les vivas et les bravos étouffés sont autant de signes qui doivent permettre de deviner par avance l'essence du phénomène, de sentir tout bas les relents de l'échec. Walt n'est pas dupe. Il remonte l'allée sans un signe, sans s'arrêter. Une boule dans la gorge, le doute au cœur. Il songe à tout arrêter. Et puis, telle une nymphe venant réconforter son héros, sa femme lui attrape la main sans rien dire. Walt, par ce geste, comprend l'essentiel. Il faut s'accrocher. Il y a des motifs d'espoir. Le principe de la souris animée a fonctionné. C'est le principal. Le reste, ce ne sont que des ajustements. Mais le temps presse. Depuis déjà plusieurs mois, l'argent n'entre plus dans les caisses de la petite entreprise. Walt Disney a besoin de frapper un grand coup. Son rêve, il doit le transformer en machine à cash et croire que sa bonne étoile, enfin, lui ouvrira la voie du succès. Après tout, celles et ceux qui réussissent sans avoir traversé des difficultés sont rares. Pour Disney ce soir, la chance ne sourit pas aux audacieux. Elle sourit au contraire aux besogneux. Au milieu des plus belles rues de Broadway, sans avoir encore échangé un mot, les époux Disney marchent longuement côte à côte. C'est alors que Walt se retourne vers son aimé. Il y a des éclairs, et plus des étoiles cette fois, au fond de ses orbites. Ah, ils aiment pas voir une souris qui parle. Eh ben très bien, elle redeviendra muette alors. Lillian Disney sourit. Bien qu'ils ignorent encore ce soir-là, Steamboat Willie sera un grand succès à la surprise générale. Les audacieux emportent aussi de temps à autre la décision. En tous les cas, des cendres d'une morose soirée d'automne viennent de naître les braises d'une œuvre gigantesque. Que dis-je ? D'un empire. Notre histoire commence quelques mois plus tôt. Nous sommes dans un train au beau milieu du mois de février 1928. Jusqu'il y a peu, Walt Disney était un homme comblé. Associé à Hub Iwerks, dessinateur et concepteur de génie, sa petite entreprise semblait promise un magnifique avenir. L'année précédente, les deux esprits ont en effet eu l'excellente idée de faire sortir de leur imagination un lapin nommé Oswald. Un brin maladroit, les oreilles pendantes. Universal et son PDG, le truculent Mintz, ont adoré. Ils se sont jetés sur le personnage de cartoon et l'ont popularisé, s'engageant même sur un contrat de plusieurs films. Un peu impétueux, le Le jeune Walt signe sans trop regarder. Cela lui apprendra. Grâce à l'argent ainsi obtenu, il agrandit son entreprise et embauche de nouvelles recrues et décide donc, en février 1928, face au succès populaire obtenu par le lapin Oswald, de se rendre chez Universal à New York afin de renégocier son contrat à la hausse. Mais c'est l'air totalement désabusé que nous le retrouvons dans le train sur le chemin du retour. À l'extérieur, la neige ralentit la progression de la locomotive. Disney n'a pourtant envie que d'une chose, rentrer chez lui. Il vient de tout perdre en l'espace d'un rendez-vous. Alors qu'en entrant dans le bureau du PDG d'Universal, il croyait obtenir monts et merveilles, il en est ressorti totalement dépouillé. Pourquoi ? Walt n'avait pas pris bien soin de lire le contrat qui le liait à la firme. Non, le lapin Oswald n'appartient pas à son entreprise. C'est Universal qui en a acquis les droits. Et les droits exclusifs, avait martelé le PDG Mintz dans un sourire de victoire. Oui, vous avez bien entendu, tous les droits. Au début, Walt a cru à une vilaine blague, évidemment. Mais tout cela est bien sérieux, bien réel. Son interlocuteur, malhonnête, en avait bien entendu profiter. Ah, Disney voulait une rallonge. Il n'en était pas question. Et pire, on lui a demandé de réduire ses coûts de production. Plus encore, il doit faire bonne figure, s'écraser, accepter que les animateurs qu'il vient d'embaucher soient engagés en direct par Universal. À ces conditions, Walt serait dépouillé. Le jeune moustachu n'est pas de ceux qui acceptent de se laisser marcher dessus. Alors il refuse. Perd sur le champ Oswald Lapin et la quasi-totalité de ses équipes d'animation. Mintz le jette dehors en le menaçant de poursuite. Et le pauvre Walt, qui n'a plus rien sous le bras, prend ce train de retour. Il ne peut pas croire à ce qu'il vient de se passer. Autour de lui, dans le wagon, passent et repassent d'autres voyageurs qui s'interrogent en apercevant la mine déconfite du jeune homme. Absorbé par ses pensées les plus obscures, il ne les remarque même pas. Il est aspiré par cette spirale de l'échec qu'il veut enrayer à tout prix. D'étoile montante à victime de crash industriel, il n'y a finalement qu'une ligne fine qu'il est très aisé de franchir. Aujourd'hui, c'est dans le vide que Walt a la sensation de plonger. Devant lui, son carton à dessin est ouvert. Des croquis d'Oswald sont encore là, témoins d'un temps révolu, l'espace d'un rendez-vous. Walt n'a jamais été un bon dessinateur. C'est Hub Iwerks, le génie du crayon, dans le tandem. Mais peut-être que lui aussi, le compagnon de toujours, va lui tourner le dos. Disney ne pouvait imaginer tout perdre en se rendant chez Universal aujourd'hui. Et pourtant, dans sa main, depuis de longues minutes, roule une pièce. C'est le moyen qu'il a trouvé pour canaliser son anxiété galopante. Un de ses crayons, entraîné par le mouvement du train, roule sur le sol. Disney pose sa pièce sur la table, ramasse en s'excusant le porte-mine qui s'était fait la malle entre les jambes d'un vieil homme déjà bien empêtré. Et puis, en redressant la tête, l'illumination. S'emparant d'une feuille blanche, Walt laisse aller son imagination, fugace, simple. Il saisit son crayon en un tour de main. Il cède de la pièce de monnaie pour tracer les oreilles et le visage. Très vite suit le corps et il ajoute même un trait pour la queue. Disney l'ignore. Mais il vient de dresser la première ébauche de son empire, dans la souffrance, dans le doute. Cette tête, ces oreilles rondes, vous l'avez deviné, ce sont celles d'un personnage que nous connaissons toutes et tous, Mickey Mouse. Bon, cette belle histoire qui veut que Mickey ait été dessiné par le grand Walt dans le train est pour le moins approximative. En réalité, tout porte à croire qu'il est né de la main d'Hub Iwerks. Mais vous allez vite le comprendre. Avec Disney, plus la légende est belle, plus... plus elle passe pour la vérité. Si dans ce train de retour pour Los Angeles, Walt a pu échafauder les premiers traits de la célèbre souris, il semble bien qu'en réalité, Iwerks, qui lui est resté fidèle, en soit le créateur. Il est néanmoins admis que Walt ait imaginé le caractère et la personnalité de Mickey. Mais depuis la création du rongeur, le mystère au sujet de sa paternité est savamment entretenu par la firme. Quoi qu'il en soit, Walt ne dessinera plus aucun personnage après ça. Il se concentre sur le rôle de Grand Manitou. Steamboat Willie, né en 1928, qu'une étape. Ce qui semblait être un échec au départ se transforme en effet en succès dans un deuxième temps. Walt, dans cette volonté d'être toujours pionnier en matière d'innovation, sera toujours à la pointe, quitte à se mettre en danger bien des fois. Si pour produire son premier dessin animé sonorisé, c'est la voiture familiale qu'il a dû vendre, pour le nouveau projet que ses équipes et lui préparent au tout début des années 30, une garantie aussi minime risque bien de ne pas suffire. Et pour cause. Ce que Walt Disney a en ligne de mire, c'est la couleur. Obsédé par les contes pour enfants qu'il veut revisiter à sa manière, c'est en 1934 qu'il se décide à se pencher sur l'histoire de Blanche-Neige. La légende, toujours, raconte que c'est lors du visionnage d'un film muet